Dans cette deuxième heure, on va vous parler de l'Antarctique qui fond à une vitesse grand V. Et puis, la question qu'on va poser, c'est à partir du moment où l'Antarctique se fond là, plus rapidement que prévu et que le Groenland fond plus rapidement que prévu, à partir de quand est-ce que ça nous rejoint? En fait, à partir de quand est-ce que ça affecte le niveau du fleuve, le niveau d'eau du fleuve? Et de tous ces affluents, bien entendu, hein, les fameuses rivières là, qui se jettent dans le fleuve. Si le niveau du fleuve monte, ça peut avoir un impact aussi sur le niveau d'eau des rivières. Et je vous rappelle, la majorité d'entre nous sommes installés soit sur le bord du fleuve, soit sur le bord d'une rivière. Alors, ces grands phénomènes-là peuvent finir par nous rejoindre, donc on va essayer de répondre à cette question-là. On va parler évidemment à Loïc Tassé de tout ce qui se passe sur la planète, mais en particulier de ce qui se passe aujourd'hui au Parlement de Westminster en Grande-Bretagne, parce que là, dans à peu près une heure, là, on devrait savoir si Mme May a perdu son vote pour le Brexit. Puis ça va avoir un impact. Je vous le dis, là, ça va avoir un impact très important pour avoir un impact économique. Les marchés boursiers également pourraient réagir. On verra bien. On va parler également, dans cette deuxième heure, de la filière montréalaise qui aidait El Chapo Guzman, le fameux narcotrafiquant, là, le grand boss du cartel de Sinaloa. Il y avait des complices ici, à Montréal, et le journaliste Vincent Larouche va venir nous raconter ça. Mais d'abord, cette découverte vraiment formidable, la salive qui pourrait nous aider à calculer le risque qu'une femme développe un cancer du sein pendant sa vie. On va aller rejoindre le chercheur qui va nous raconter tout ça, Jacques Simard. Alors, son titre est long. Titulaire de la chaire de recherche du Canada en oncogénétique à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec, Université Laval. Bonjour, professeur Simard.
Bonjour, docteur Monsieur Drainville.
Docteur Drainville, ça, c'est la première fois qu'on m'appelle docteur Drainville. Mes parents seraient bien contents. Mais bon, journaliste, c'est pas si pire. Alors, racontez-nous votre découverte et surtout comment ça fonctionnerait, là, puis quel impact concret ça pourrait avoir là, pour les gens qui nous écoutent, là.
Ben écoutez, c'est une découverte que je partage avec mes collègues du Royaume-Uni. Donc, on parle pas seulement de Brexit aujourd'hui pour le Royaume-Uni. On parle aussi de cette découverte-là, de mes collègues de l'Université de Cambridge, avec qui je collabore étroitement depuis nombreuses années, mais aussi auxquels j'ai joué un rôle clé. On s'est parlé à votre émission en octobre l'année dernière. On avait découvert de nombreux nouveaux marqueurs génétiques. Et là, on a continué, on a raffiné nos études. C'est une étude qui inclut près de 170 000 femmes provenant de 70 études sur la scène internationale et on a pu mettre en évidence une empreinte génétique, une signature génétique qui inclut près de 313 marqueurs et on a pu valider l'utilisation de la précision de cette signature génomique-là chez près de 220 000 femmes. Donc ça, c'est la première avancée majeure qui a été publiée seulement il y a quelques jours.
Juste pour être clair, donc vous avez un échantillonnage global de 170 000 femmes et dans le fond, cet immense échantillonnage, vous l'avez dans le fond divisé en 313 sortes de marqueurs génétiques. C'est comme si ce grand bassin pouvait se retrouver dans 313 codes génétiques différents, c'est ça?
Mais pour plus de précision, en fait, c'est qu'on avait des échantillons d'ADN de 94 000 femmes ayant eu un cancer du sein et un groupe témoin de 75 000 femmes. Et on a étudié 12 millions de marqueurs génétiques dans leur génome. Et on a pu démontrer que l'empreinte qui nous donne la meilleure estimation du risque associé au cancer du sein, c'est une empreinte de 313 marqueurs parmi les 12 millions de marqueurs qu'on a étudiés.
Okay.
Et par la suite, on a validé dans des études qu'on dit prospectives, donc chez près de 220 000 femmes, la validité de cette signature-là. Donc ça, c'est le premier jalon, c'est l'outil essentiel qu'on avait besoin, c'est d'avoir cette information-là. Ça a été publié seulement il y a quelques jours, en fait, le 3 janvier. La publication d'aujourd'hui... toujours piloté par un autre de mes collègues de l'Université de Cambridge dans la même équipe, c'est un modèle de prédiction de risque qui inclut sept signatures génomiques-là, donc sept empreintes génomiques de plus de 300 gènes, et combine cette information-là avec d'autres facteurs de risque, comme des facteurs, l'histoire familiale ou les facteurs hormonaux ou certaines habitudes de vie, la consommation d'alcool ou même l'indice de masse corporelle. Et c'est cet outil-là qui est vraiment une étape importante,
okay.
Parce que de cette façon-là, on peut combiner l'information et arriver à déterminer un risque pour une femme dans la population en général, son risque de développer un cancer du sein au cours des prochaines années ou okay. au cours de la vie.
Alors concrètement, là, quelle application on pourrait donner à ces découvertes-là? Puis commencer avec la salive, parce que c'est ça qui m'a frappé, moi. Un simple test de salive qui permet d'estimer avec précision le risque qu'une femme développe un cancer du sein. C'est ça qui m'a frappé, moi.
C'est pas un test diagnostique, ça. Je m'assurer qu'on fait la mammographie, l'imagerie par résonance magnétique sont des tests pour dépister un cancer. Là, on veut déterminer le risque d'une femme. On sait qu'actuellement, le programme de dépistage au Québec s'intéresse aux femmes de 50 à 69 ans et que c'est une mammographie à toutes les deux années qui est recommandée. On sait aussi qu'il y a un cas de cancer du sein sur 6, donc 18 % des cancers du sein qui vont être diagnostiqués chez des femmes de moins de 50 ans. D'où l'importance d'être capable d'identifier des femmes le plus tôt possible pour leur offrir un suivi le plus approprié. Donc, on estime qu'environ 15 % des femmes auraient un risque plus élevé que la population, que le risque moyen. Donc, on pourrait adapter. Et il y a parmi ces femmes-là, il y a une proportion qui ont un risque un peu plus élevé et elles seraient même éligibles à avoir accès à une technique d'imagerie, donc l'IRM, l'imagerie okay. de résonance magnétique.
Donc, on pourrait identifier ces femmes-là qui sont davantage oui. à risque, des femmes de moins de 50 ans, à oui. partir de ce test de salive?
Oui, et d'un questionnaire. D'un questionnaire pour les autres, pour colliger les autres facteurs de risque et aussi la densité mammaire déterminée par mammographie. Donc, on combinerait ces informations-là. Puis, ça nous permettrait de cette façon-là de probablement débuter plus tôt. Et pour les femmes un peu plus âgées qui auraient cette même approche-là, par exemple, une femme de 55 ans qui aurait un risque plus élevé. Donc, au lieu d'avoir une mammographie à toutes les deux ans, elle pourrait avoir une mammographie annuelle. Et si, par exemple, une femme un peu plus âgée qui a, par exemple, 69 ans, mais qui a un risque plus élevé, bien, probablement que ça pourrait être pertinent de continuer encore les mammographies jusqu'à 74 ans. Donc, c'est la façon, oui, ça pourrait être un test sanguin, mais compte tenu qu'on veut aller à une approche populationnelle, on a eu la chance et le privilège d'avoir une subvention de 15 millions. Donc, les premiers outils, c'était une subvention de Génome Québec, Génome Canada et la Fondation du cancer du sein, essentiellement.
Oui,
oui. Là, on vient d'avoir une nouvelle subvention. Donc, on va mettre en place une étude qu'on appelle de préimplantation. Donc, on veut tester chez 10 000 femmes au Québec et en Ontario, donc 5 000 au Québec, l'acceptabilité, la faisabilité, l'efficacité d'une telle approche de dépistage fondée sur le risque, mais aussi on veut évaluer les enjeux organisationnels de l'implantation d'un test de dépistage personnalisé dans notre système de santé.
Ça veut dire quoi, c'est un test de dépistage personnalisé?
C'est qu'actuellement, si vous avez 50 ans, une femme est éligible de 50 à 69 ans de participer. Donc, le principal critère est essentiellement basé sur l'âge.
Oui.
Tandis que là, il pourrait être basé sur un risque individuel qui tiendrait en compte l'empreinte génétique et la combinaison avec les autres facteurs de risque, comme on a mentionné tout à l'heure.
Alors, concrètement, là, mettons que ça fonctionnerait oui. puis qu'on serait capable de mettre en place donc cette nouvelle oui. façon de faire du dépistage. En particulier pour les femmes de moins de 50 ans. Ça voudrait oui. dire quoi? Ça voudrait dire qu'on procéderait, par exemple, la femme va à un rendez-vous annuel avec son médecin de famille, elle pourrait à ce moment-là donner un échantillonnage de sa salive, là, ça s'en irait dans un laboratoire centralisé, là, à partir de ce test de salive-là et possiblement de l'historique familial, on pourrait entamer un traitement peut-être préventif.
Donc, vous avez bien compris, c'est un scénario. Donc, ça va faire partie de l'étude qu'on veut effectuer aussi. Quels sont les enjeux organisationnels? Oui, il y aura un laboratoire centralisé parce qu'on peut tester rapidement ce type avec ce test génétique-là qui ne devrait pas être très coûteux. Là, on vise éventuellement qui devrait coûter autour de 100 $, 100, 150 $. Donc, la femme même pourrait prendre son échantillon de salive à la maison suite à sa rencontre avec le médecin puis l'envoyer. Mais il est possible que si nos données sont probantes, et c'est l'objectif qu'on a, c'est qu'on veut vraiment avoir un projet avec des femmes qui participent actuellement au programme de mammographie, donc on veut se rapprocher le plus possible de la réalité. Si le ministère juge que les données sont probantes, peut-être qu'eux pourraient arriver avec une étude d'implantation plus grande. Et là, offrir, par exemple, à une femme de 40 ans, à sa date d'anniversaire, la possibilité d'avoir l'évaluation de son test, un test génétique, et aussi combiné avec les autres facteurs de risque. Donc, ça pourrait être implanté aussi simplement que ça. Et cette information-là, évidemment, serait transmise au médecin traitant pour permettre un suivi beaucoup plus adapté.
Est-ce qu'il y a des pays qui ont déjà implanté ce type d'approche-là, ou est-ce que la science, dans le fond, comment je dirais ça, on fait des découvertes maintenant, et donc on est en avant de la parade, et donc on serait possiblement parmi les premiers à mettre en place un système comme celui-là, là?
On est en avant de la parade. Je prends pas le mérite à moi seul, sûrement pas. On a une collaboration, on a un consortium qui est piloté par mon collègue de l'Université de Cambridge aux États-Unis, au Royaume-Uni, et qui regroupe près de 100 équipes à travers le monde, provenant de 36 pays. Et l'information, par exemple, les 313 marqueurs pour l'empreinte génétique qu'on a déterminé, ben cette information-là, on l'a partagée avec nos collègues en Europe, et eux, ils commencent en même temps que nous une étude chez 85 000 femmes, une étude randomisée dans 6 pays d'Europe. Donc, pour essentiellement arriver avec un dépistage personnalisé aussi, et dans l'espoir toujours d'arriver avec une détection précoce. Donc, on sait que plus le cancer du sein va être dépisté tôt, plus les chances de survie sont grandes, plus les traitements sont moins invasifs. Donc,
ultimement, Dr Simard, ultimement, ce serait, l'ultime démonstration que ça fonctionne, c'est qu'on réussirait à diminuer le nombre de femmes qui décèdent du cancer du sein. Est-ce que ce serait ça la preuve ultime que ce dépistage précoce et personnalisé fonctionne?
Bien, ça serait déjà une preuve ultime, mais vous savez, compte tenu que vous savez, au cours des 25 dernières années, le taux de mortalité du cancer du sein a diminué de 43%, ce qui est quand même important. Ça, c'est dû au dépistage précoce, au dépistage par mammographie et les traitements qui y sont associés. Je pense qu'on peut avoir des indicateurs intérimaires, là, intermédiaires. Donc, si on est capable de dépister plus de cancers du sein, par exemple, au stade 1, comparativement au programme actuel qui dépiste, par exemple, au stade... Donc, si on diminue le nombre de stades 2...
On va sauver plus de femmes.
Et donc, leur survie va être meilleure.
Voilà, exactement.
C'est l'objectif.
Ben, très bien, continuez. Est-ce que c'est docteur Jacques Simard? Moi, j'ai sur ma feuille Jacques Simard. Est-ce que c'est docteur Jacques Simard?
Moi, j'ai un doctorat en physiologie, en endocrinologie moléculaire, donc je suis un chercheur, je ne suis pas médecin.
Oui, mais vous êtes docteur pareil, vous avez un doctorat. Alors, docteur Jacques Simard, je répète pas tout votre titre, là, mais je souligne évidemment que vous êtes l'un des leaders donc de cette étude internationale publiée aujourd'hui. Vous avez donné le crédit à tous les collègues qui vous accompagnent là-dedans. Vous pourrez les saluer. Alors, on souhaite continuer comme ça à recevoir des bonnes nouvelles de vous, M. Simard.
Merci beaucoup, M. Drainville.
À la prochaine. On s'arrête après la pause. El Chapo Guzman, hein, pour ceux qui ont vu la série sur Netflix, Narcos, là. Puis il y a une autre série qui est consacrée à El Chapo. Ben, savez-vous quoi? Il y a un grand procès. C'est le procès de l'heure à New York, là. Et là, on a appris, je pense que c'est hier, on a appris qu'il y avait une filière montréalaise et que le chapeau, il nous vendait de la dope ici, chez nous. Le journaliste Vincent Larouche est en studio après la pause.